Yvonne Godot, Les Contes du Manoir Rose ou Le Framboisier, chapitre 4, Le tapis de prière et Séraphin le chat. Cet été-là, j'étais arrivée très lasse au Manoir Rose et bien décidée à n'y rien faire, sinon avancer un tissage de tapis. À mes bagages, j'avais donc adjoint un grand sac souple en osier tressé, dans lequel étaient entassés un canevas et des laines. Le tapis était en cours d'achèvement et l'on avait déjà une idée de ce que serait son aspect définitif. C'était un tapis dit de prière, avec la mosquée traditionnelle au milieu, environnée de fleurs. Celle-ci baignait dans un soleil rouge sang, à moins que ce ne soit rouge soleil couchant. J'aimais beaucoup ce tapis de prière. Il me rappelait le Proche-Orient, où j'avais vu des hommes habillés des longues robes blanches ou grises, déplier des tapis semblables et s'y prosterner, le corps dirigé vers la Mecque. Ce cérémonial inattendu, dans les endroits les plus divers, m'avait à la fois étonnée et ravie. Ces hommes étaient soudain si isolés du monde, si indifférents au déroulement de son cours, que cette intimité avec leur Dieu m'avait semblé enthousiasmante et enviable. C'est en souvenir de cette émotion de voyage que j'avais acheté mon canevas. J'aurai ainsi moi aussi mon tapis de prière, et bien que je n'aie aucun sens de l'orientation et peu de raison de le diriger vers la Mecque, du moins pourrais-je, si l'envie m'en prenait, m'y allonger un moment dans un sentiment de communion universelle. Je cousais beaucoup sur le grand canapé du salon, face à la cheminée où le feu était toujours prêt à être allumé. À travers les rideaux jaunes d'or passait une belle et chaude lumière. Je tirais les laines, piquais ma grosse aiguille d'une fleur à l'autre, butinais des écheveaux de couleurs au dessin qui peu à peu prenaient vie. C'était très amusant, mais si distrayant que ce fût, cela ne m'ôtait pas l'extrême fatigue qui m'anesthésiait littéralement. Alors, souvent, je remettais le tapis dans son sac d'osier et faisais un somme sur le divan. Je m'éveillais toujours avec une désagréable impression. J'étais oppressée. Mon cœur battait très fort dans ma poitrine et semblait s'enfoncer trop loin, vers une zone hors de portée. J'étais inquiète. Il faudra que j'en parle à mon médecin. J'ai trop travaillé. Je vais devenir cardiaque. Ce mot prenait dans ma tête des résonances barbares. Un après-midi où la maison était particulièrement immobile, seule grand-mère et Zizine s'activaient à la cuisine autour de bassines où cuisaient des confitures. Je m'endormis ainsi, abandonnée à la détente et heureuse de savoir la savourer à son prix. Je pense que la sieste fut courte, mais de nouveau, la lourdeur de mon cœur et ses battements précipités me réveillèrent. Sur ma poitrine était étendu un grand chat noir, qui me regardait avec ses yeux d'or. J'eus un peu peur. Que me veut-il? Puis je fus rassurée au sujet de mon cœur. C'est peut-être lui qui fait chaque jour la sieste avec moi. Que dis-je? Sur moi! Je commençai à le caresser. Il ronronna et me fit savoir sa satisfaction en enfonçant ses griffes dans ma poitrine, juste assez pour se faire comprendre. Juste assez pour ne pas me faire mal. Voilà un ami qui m'arrive, dis-je tout haut. J'enchaînai. « Tu es un beau grand chat, dis-moi. D'où sors-tu? Tu n'as pas peur de Janix et de Néron ?»« Ce sont trois questions différentes, » répondit-il avec le sérieux d'un homme politique en interview. Je me mis à rire et lui dis « Puisque tu parles, tu n'es pas un chat ordinaire. »« Tu peux dire sans crainte, un chat extraordinaire. Je suis un chat qui protège. » La mère de grand-père, quand son âme a quitté son corps, cherchait à qui confier la garde de sa demeure. J'étais tout petit alors, et je tétais encore ma mère. C'est pendant que celle-ci dormait, comme toi tout à l'heure, que l'âme m'a choisi. « Va au manoir rose, me dit-elle, remplace-moi là-bas. Veille sur tout et sur tous. Que le bonheur règne dans cette maison que j'ai tant aimée. Je te donne mon pouvoir. Tu ne quitteras les lieux que quand je t'en donnerai l'ordre. » J'ignorais où était le manoir rose. L'âme guida ma course de bébé chat, prenant soin de mes repas en route. Il y avait toujours sur mon passage un bol de lait ou de bouillie qui me permettait de reprendre des forces, un vieil édredon ou une couverture qui réchauffait mon sommeil. J'arrivai ici. L'âme me conduisit tout droit à la cuisine. J'entendis grand-père crier « Regarde la visite qui nous arrive !» Grand-mère était tout étonnée. « Qu'est-ce que c'est que ce chaton qui a l'air de connaître la maison ?» Ils se concertèrent et j'entendis « Que ferons-nous d'un chat? Nous avons des chiens, des canards, un âne, des chevaux. Ça suffit comme ça !» Grand-mère me prit dans ses bras. Elle voulait faire le tour du pays pour savoir à qui j'appartenais. Quand elle mit le pied hors de la propriété, l'âme me dit « Accroche-toi, n'accepte pas de sortir. » Je m'accrochais de toutes mes griffes. Grand-mère fit plusieurs sorties à droite et à gauche, contactant tous les voisins. Elle s'étonna de sentir chaque fois, à l'instant précis où elle posait les pieds hors de ses terres, des aiguilles acérées lui labourer la peau. « Ce chat est un drôle d'animal, » dit-elle à grand-père en revenant le soir. « Il connaît les limites du domaine mieux que moi. » Et elle ajouta, « Si je ne lui donne rien à manger, il partira de lui-même. » L'âme prit soin de moi, me cajola pour écarter de mon cœur toute tristesse. 3 jours après, le ventre vide, je me frottais toujours aux jambes des maîtres du logis. J'avais élu domicile sur un fauteuil que l'âme m'avait désigné. « Prends-le, sans hésiter, c'était le mien, » me dit-elle. Grand-mère se mit à me regarder avec amitié et compassion. « Pauvre petit, il doit avoir faim. Il est si gentil, si bien élevé. Il ne réclame rien, ne vole rien. » Elle commença à me nourrir. L'âme partit tranquillement. Elle dort maintenant sous des rosiers, près de l'église. Grand-mère m'appela Séraphin, parce qu'elle disait que mon arrivée, imprévue, était comme celle d'un esprit céleste. J'ai très bien vécu ici ma vie de chat. J'ai veillé à tout, ainsi qu'il m'avait été demandé. « Pourquoi parles-tu au passé ? » dis-je. « Serais-tu fantôme de chat à ton tour ?»« Absolument, je suis fantôme de chat. Mais j'ai beaucoup d'amis dans les parages. Tu n'imagines pas combien les alentours sont peuplés. »« Que fais-tu à me regarder dormir alors ? Tu appuies sur mon cœur, tu sais. » »« J'aime ton tapis, » dit-il avec délice. « Il ne tient qu'à moi d'en faire un tapis miraculeux qui voyage. Mais je voulais d'abord avoir ton accord. » »« Ce que tu me racontes me fascine, Séraphin. » « Dispose de mon tapis la nuit autant que tu voudras, mais fais en sorte qu'au retour, il ne soit ni mouillé, ni détérioré, ni sali. Et surtout, ne m'embrouille pas mes écheveaux de laine. »« J'en prendrai soin comme de la maison, » dit-il en clignant de plaisir ses 2 yeux, minces fentes ouvertes sur de l'or pur. « Les confitures sont formidables !» cria une voix triomphale de la cuisine. Grand-mère arriva en brandissant une cuillère pleine de jus onctueux qu'elle me fourra dans la bouche. Je lançai à tout hasard. « Dommage que tu n'aies pas un chat ici, il ferait honneur à tes fentes casseroles. »« J'en ai eu un, » dit-elle avec une nuance de regret. « Il s'appelait Séraphin. J'ai eu tant de peine quand il a disparu que je me suis jurée de ne plus jamais en avoir. Il a peut-être moins disparu que tu le penses. » Mon amie me regarda fixement, éclata de rire et laissa tomber. « Ha ! Toi et tes idées à dormir debout !» Le lendemain matin, le tapis était en place dans son sac d'osier, les écheveaux de laine aussi, et ainsi tous les matins qui suivirent. Je remarquai néanmoins, quand je me mettais à travailler, que les fleurs prenaient des allures un peu nouvelles. Je les voyais par moments sautiller sous mes yeux, comme si elles étaient prises de fou rire. Mes yeux me jouent des tours, et je chaussais mes lunettes. Rien ne changeait. Un jour, agacée, je me mis à parler à mes fleurs. « Pourquoi riez-vous sous cap, petites idiotes ? Croyez-vous que je ne suis pas au courant ? Racontez-moi plutôt vos voyages au lieu de ricaner. » L'une d'elles leva le doigt, se dressa sur sa tige comme une élève qui veut être interrogée, et récita. « Nous sommes allés en Égypte. Nous avons vu le dieu des chats. »« Vous avez vu le dieu des chats ? Vous êtes allés en Égypte ? Parlez-moi de l'Égypte. » L'Égypte, état de l'Afrique du Nord-Est, 907 000 km². Capitale, le Caire. Ville principale, Alexandrie, Port Saïd, Suez. La plus grande partie du territoire est occupée par des déserts. À l'ouest, le désert libyque avec de rares oasis. À l'est, le désert arabique prolongé au-delà du golfe de Suez par la presqu'île du Sinaï. Dans cette partie de l'Égypte est concentrée une population très dense. « Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu as appris le dictionnaire par cœur ?»« Le chat sait tout. Le chat nous a tout appris !» me chantèrent à l'unisson les petites fleurs. Elles étaient dans un tel état d'excitation que je plantai là mon aiguille après les avoir priées de se calmer un peu. Les jours qui suivirent, je ne m'occupai plus de tapisserie. Quand je repris mon travail, j'eus droit à un concert de jérémiades. De tous les coins, j'entendais. « Pourquoi ne suis-je pas achevée ? Je ne profite pas pleinement de mes voyages. Oh, il me manque un pétale. Cela gêne beaucoup ma respiration quand nous sommes au-dessus des nuages. » Moi, je n'ai qu'un seul pourtour. Partout ailleurs, je suis trouée comme une passoire. Je ne peux rien retenir des enseignements du chat. Moi, je suis minuscule. Pourquoi m'as-tu fait si petite ? Les autres me bouchent le paysage. Taisez-vous, taisez-vous ! Cria le tapis tout entier. Moi aussi, j'ai à me plaindre. Je ne pourrai voler vraiment que lorsque je serai terminée. Pour l'instant, je bascule sans cesse comme une voiture qui aurait les pneus crevés. J'ai toujours l'impression que je vais tomber dans la mer ou m'accrocher aux arbres des montagnes. Secouée par tant de reproches, je repris ma tapisserie avec acharnement. Grand-père et grand-mère étaient subjugués par la rapidité avec laquelle je tirais l'aiguille. À peine une aiguillée de laine enfilée et nouée, le mouvement du bras, large d'abord, raccourcissait, jusqu'à ne plus être qu'un balancement du poignet. Une petite reprise derrière le canevas pour arrêter la laine et hop, une autre aiguillée sortait de l'écheveau et le manège recommençait. Quand la famille était assemblée, les fleurs se tenaient tranquilles. Mais lorsque je travaillais seule, elles me racontaient leur voyage de la veille. « Nous avons vu la mosquée bleue à Istanbul. Nous aurions voulu y vivre. Nous ne sommes revenus que parce que nous voulons être terminés. Nous avons survolé des déserts de sable au-dessus de l'Arabie. Nous avons été heureuses de ne les voir que d'en haut. Qu'est-ce qu'un petit tapis comme le nôtre aurait fait dans cette immensité ? Nous nous sommes posés dans la tente d'un bédouin au Sahara. Notre tapis est beaucoup moins beau que ceux qui y étaient accrochés. Pour rivaliser avec la douceur de leurs fleurs, il nous faudra vieillir beaucoup. Nous avons vu les souks de Damas. Quel remue-ménage ! Que d'objets amusants et hétéroclites ! Le chat nous a fait nous allonger au pied même du sphinx. Il est si haut, si grand, qu'il a fallu de nombreux vols planés pour apprécier sa beauté. Et nous avons revu le dieu des chats. Un autre jour, nous parlions de Médine, la ville sainte qui a servi de refuge à Mahomet, avant le triomphe de l'islamisme. Le chat, pris au jeu du tapis de prière et de sa petite mosquée, fréquentait beaucoup les pays musulmans. « Quand irez-vous à la Mecque ? » demandai-je un matin. D'une seule voix, les fleurs multicolores répondirent. « Quand tu nous auras terminé ?» Il y avait là, sous-jacent, un énorme reproche. Puis tout le monde se mit à psalmodier en chœur. « La Mecque, ville sainte d'Arabie Saoudite où affluèrent les croyants au temps des pèlerinages, patrie de Mahomet, mosquée qui renferma la Kaaba et vers laquelle les musulmans se tournent à l'heure de la prière. Les fidèles de l'islam sont tenus de s'y rendre en pèlerinage au moins une fois dans leur vie. » J'avais de nouveau, à travers les leçons du chat, droit à la science du dictionnaire. C'est à peu près à cette époque que je fis la connaissance d'une famille saoudienne. J'avais terminé mon tapis et l'avais fait doubler. Il avait pris place devant la table de mon salon. J'aimais m'y allonger pour me détendre et je trouvais que, plus que partout ailleurs, le repos m'y était salutaire. Les occupations parisiennes avaient repris. Je n'entendais plus les fleurs parler et n'avais pas revu le chat. Le tapis, lui, m'était extrêmement familier. Un jour que nos amis saoudiens étaient venus nous rendre visite, j'en profitais pour leur demander comment orienter mon tapis vers la Mecque. « Vous voulez vous convertir à l'islam ?» me demanda la très belle jeune femme. « Non, lui dis-je, mais Dieu est grand, et Mahomet est l'un de ses prophètes. » Elle sourit et son mari éclata d'un grand rire. « Il est parfaitement dirigé, me dit-il. Vous n'avez peut-être pas, comme vous le laissiez entendre, le sens de l'orientation, mais vous avez un fort instinct religieux. » Je continuai donc, sinon mes prières à Allah, du moins mes exercices de relaxation. Un jour où je m'étais endormie, bercée par un enregistrement, « Détendez-vous, respirez, détendez-vous. » Je fus subitement réveillée par l'ancienne pesanteur sur la poitrine et les mouvements précipités de mon cœur. Voilà que ça recommence. Je rouvris les yeux. Le chat était étendu de tout son long sur moi et me fixait de ses prunelles d'or. « Pardonne-moi, tu as eu peur encore une fois. Je suis déprimée depuis ton départ. Je ne peux plus me passer de ton tapis de prière. Je suis allée voir la grand-mère que j'ai tirée de son sommeil sous les rosiers. Je l'ai suppliée de me délivrer de ma mission. » Elle m'a dit avoir été contente de moi, et comme au manoir rose, tout est parfaitement en ordre, elle m'a rendu ma liberté. Puis-je m'installer ici ? Ce chat était si beau, si drôle et si tendre, que mon cœur donna instantanément son accord. Je lui dis pourtant, mes conditions restent les mêmes, que le tapis ne soit ni sali, ni mouillé, ni détérioré. Hormis cela, fais ce que bon te semble. Il me remercia à sa façon, en clignant les yeux. Depuis, chaque matin quand je me lève, mon tapis voyageur a changé de place. Il me faut le tirer devant la table du salon pour rendre à celui-ci son équilibre d'ensemble. J'aime cette malice du chat, que je considère comme un salut pour lui et aussi pour nous autres humains.